Bonjour. Bienvenue à ceux qui sont arrivés juste pour ce moment. Ça m'avait frappé quand je regardais depuis hier soir, comme je suis face à la fenêtre. C'est étonnant combien ça change. Et donc ce matin, quand c'était noir, je restais pendant la méditation, je regardais partir, je comptais mes respirations pour venir me poser. Après, peut-être une dizaine de fois, je levais les yeux et c'était changé. Je refaisais ça. Je ne sais pas combien de fois je comptais jusqu'à 10, mais plusieurs fois, je regardais, c'était de nouveau changé. Et chaque fois, c'était changé, parce que la lumière, le jour se levait. Et après, tout ça, quand on a commencé à manger, c'était nuageux, je crois toujours, et donc c'était noir et gris tout ça. Quel était mon étonnement quand j'arrive ici pour cette période, et il y a la verdure. Le soleil est là et tout est vert. Il n'y en avait pas ce matin. C'était gris et noir. Et la surprise, heureusement que j'ai pu lâcher mon idée fixe que ça devait être noir et blanc, ou que ça devrait être vert, parce que sinon, je n'aurais pas vu comment c'était avant. Et apprécier comment c'était avant. Et ça, ça avait à voir, cette possibilité que j'avais, c'est, je crois, lié à hier soir, quand on avait fait une petite introduction à ce qu'on faisait ici, etc. Et j'ai dit les bêtises, enfin, j'ai dit les choses, pourquoi on est là. Depuis, j'ai arraché cette feuille et je l'ai donnée à Lisa parce qu'il y avait d'autres choses écrites sur l'autre côté. Mais, je dis que j'ai dit des bêtises parce que c'était des formules et des concepts. C'était du genre, on est là pour calmer l'esprit, pour ne pas être distrait, je ne sais pas. C'était bêtises. Je sais que je le disais parce qu'il faut dire quelque chose au début. Quand on arrive, il faut cadrer, etc. Et donc, il faut dire quelque chose. Il ne faut pas forcément dire ce que j'ai dit, mais il faut dire quelque chose. J'ai appris ça, j'ai traversé des années d'enseignement. Au début, je ne voulais rien dire. Mais j'ai compris qu'il fallait dire quelque chose. Donc, mon teacher m'a poussé à me mettre là et dire quelque chose. Donc, il a fallu dire quelque chose. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut dire alors, si ce n'est pas ces bêtises que j'ai dit? Je ne sais pas comment je vais formuler tout ça, parce que sans dire quelque chose qui est bêtise, disons. Donc, j'étais inspirée par ce Coran qui est dans une de nos collections qui s'appelle le livre de la sérénité ou le livre de l'équanimité, qui dans notre cursus de Coran, on travaille tout à fait à la fin de notre cursus de 800 Corans, quelque chose comme ça, ou plus même. Et c'est à la fin. C'est des Corans qui apparaissent dans différents recueils aussi, mais là, je ne suis pas sûre si ça apparaît dans un autre.
Donc, si tout le monde sait ce qu'est un Coran.
Un Coran, oui. C'est des énigmes. Mmh. C'est des petites phrases, des échanges, des poèmes, des histoires qui se sont déroulées, qui n'ont pas de sens, qui on ne comprend pas par l'intellect. Je dis énigme, c'est pas tellement une énigme, mais ça nous parle un peu si on dit une énigme. Vous allez voir quand je déroule un peu plus, vous allez avoir une expérience directe de ce que c'est un koan. Donc. Alors, ce koan, c'est le cas numéro 20 de cette collection. Il y a un maître et un étudiant qui a toujours... C'est un moine, je ne sais pas si c'est son disciple, mais c'est un moine. C'est toujours... C'est Chine au 8e siècle, et donc beaucoup de ces gens-là sont les histoires qu'on a, c'est les maîtres et les moines. Très peu de femmes sont dans ces histoires, bien qu'il y avait plein de femmes qui pratiquaient, il y avait des femmes maîtres, mais comme on connaît les histoires, c'est toujours les hommes qui retiennent les histoires, où il s'agit des hommes. Là, c'est un maître et un moine. Et donc, le maître, c'est un moine visiblement qui connaît... Oui, mais c'est pas un disciple parce qu'il ne le connaît pas. Il arrive, le moine. Et donc, le maître dit, où allez-vous? Et le moine dit, en pèlerinage. Parce qu'à l'époque, c'était très courant de, des moines, les pratiquants, aller de monastère en monastère, de maître en maître, faisaient des pèlerinages. Et le maître dit, à quoi cela sert-il? Le moine dit, je ne sais pas. Et le maître dit, ne pas savoir est le plus intime. Alors, dans les histoires comme ça, toujours, le moine, disciple, etc., après ça, un grand éveil. Finit souvent comme ça. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que le moine a réalisé? Pourquoi le maître dit ne pas savoir est le plus intime? Et ça, c'est l'histoire, là, qui me retient. Parce que c'est vraiment le fond de notre pratique. Ce que j'ai dit hier soir, quand j'ai dit les bêtises, c'était savoir. On sait qu'on va faire ceci et cela, et ça va aboutir à cela, à quelque chose. Et on fait ça pour ça. Ce qui n'est pas du tout vrai. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne savais pas ce matin ce qui allait se présenter devant cette fenêtre. Et ceux qui ne sont jamais venus ici savaient même moins que moi ce qui était derrière cette fenêtre. C'est ça qu'on, dans le Zen, on appelle l'esprit du débutant. Quelle chance! L'esprit du débutant, parce que là, vous avez vraiment la possibilité de ne pas savoir. Nous autres, on doit relâcher les choses pour ne pas savoir. Donc, il y a cette ne pas savoir est le plus intime. Et l'autre chose qui est très intéressante dans cette histoire, et ça, c'est la traduction française. Dans la version en anglais, c'est un peu différent, mais il dit à quoi cela sert-il? Cela. Cela est insaisissable. En anglais, je crois que probablement c'est it. What is the purpose of it? Probablement. Mais je ne suis pas sûre. Je crois en anglais, c'est peut-être juste what is the purpose? Sans le it. Donc là, c'est cela, c'est à quoi cela sert-il? Donc c'est cela insaisissable. Donc là, on va regarder un peu ces choses-là. Et donc vous voyez un peu ce que c'est un koan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on va toujours parler de cette histoire qui s'est déroulée dans le 8e siècle en Chine? Pourquoi? Non, 9e siècle, pardon. 9e siècle. Pourquoi on va parler de ça toujours? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi le maître, le disciple, le moine, après, il a un grand éveil? Qu'est-ce qu'il s'est éveillé à quoi? Donc, c'est ça un courant. Et il s'agit de chacun doit répondre de son propre expérience. Il ne s'agit pas de donner la réponse du maître, de ne pas donner une idée, un concept de ce que c'est ne pas savoir. Moi, j'ai fait ça hier soir, c'était des bêtises. Je n'ai pas passé le courant hier soir quand j'ai raconté ça. Donc, alors évidemment, moi, ça m'avait pensé, je vais juste dérouler un peu, en tant que poète, artiste, je suis familier avec, et surtout anglo-saxonne, ce que le poète Keats, John Keats, un anglais, au 19e siècle, appelait, c'est lui qui a formulé ça la première fois, les trois capacités négatives. C'est une chose qu'on utilise beaucoup dans les écrivains, les capacités négatives. Alors, qu'est-ce que c'est les capacités négatives? Lui, il dit, c'est les capacités à tolérer l'incertitude, le mystère et le doute, sans vouloir aussitôt se raccrocher à du concret et du rationnel. Ou il a dit, je crois, en anglais, il a dit « fact and reason ». Et pour lui, c'est tout poète, tout artiste, c'est comme ça qu'il travaille. Ne pas savoir. Pour lui, c'était les capacités négatives, indispensables à son travail d'écrivain. Au moins dans la poésie, moi je travaille comme ça aussi, et il y a d'autres poètes qui disent ça aussi, c'est qu'on dit qu'on travaille, on écrit, et après on voit. On ne sait pas ce qu'on fait, et après on voit. Et d'autres artistes peuvent témoigner de ça. Mais ce n'est pas uniquement limité aux artistes, ça s'applique à nous tous. Dans la cuisine, bon, on peut avoir une idée, peut-être Adrien, il a une recette, ou une idée de ce qu'il veut faire, mais il ne sait pas vraiment comment ça va être. Il ne sait pas si sa soupe de butternut va ressembler à ça. Tout le monde qui fait des soupes de butternut connaît ça. Enfin, moi, je connais bien qu'à chaque fois, c'est différent. Bien que j'essaie de faire la soupe de butternut. Et je goûte la soupe de butternut de quelqu'un d'autre et je dis, ah, dis donc, c'est bien, c'est différent de la façon que je fais. Mais probablement, ce n'est pas la même chose chaque fois qu'Adrien a fait non plus. Ça peut s'appliquer à on met les habits dans la machine à laver pour le linge et on ne sait pas comment ça va sortir. Mon fils l'autre jour, il avait des pantalons blancs qu'il adore, qu'il a acheté avec des cadeaux de Noël, etc. Et il fait un temps pourri à Paris et donc un jour il est sorti, il pleuvait. Il est rentré, le derrière des pantalons, en bas, était couvert de boue, des petites taches de boue. Ah, il était furieux. Donc j'ai dit, non, t'inquiète pas, c'est le boue, ça va sortir. Je croyais qu'il allait laver tout de suite, mais non, il a attendu une semaine. Et donc il était chez moi et chez nous, et il aimait à laver, et il sort, il dit, maman, mais tu m'as dit que ça allait sortir, il y a toujours des taches dessus. Donc, il avait une idée préconçue de comment ça allait sortir, et ce n'est pas sorti comme ça. Je lui ai expliqué qu'il aurait dû le faire tout de suite, etc., mais que j'avais un truc anti-tache qu'il pouvait mettre, et il pensait qu'il allait mettre des anti-tache, et ça allait sortir des taches tout de suite. Et j'ai dit, non, il faut le relaver. Donc, vous voyez, c'est dans tout moment de notre vie, c'est incertain. Tout est incertain, tout le temps. Donc, est-ce qu'on a ces capacités négatives de tolérer l'incertitude, le mystère et le doute, sans s'effondrer, parce que ça peut être terrible aussi. Et j'ai lu une étude une fois où les gens qui attendaient un diagnostic médical, ils sont plongés dans l'incertitude, le doute. Et ils reçoivent le diagnostic, et même si c'était un diagnostic pas très bien, pour eux c'était mieux que de rester dans l'incertitude. Même si tu es condamné, c'était mieux que de rester dans l'incertitude. C'est étonnant quand même, non ? Qu'on a à ce point-là l'incapacité de tolérer, enfin, quitte à utiliser le mot tolérer, moi je dirais plutôt accueillir ou demeurer dans l'incertitude. Parce que si on dit tolérer, c'est que c'est insupportable, mais on va le tolérer. Mais c'est vraiment de juste être avec, de l'accueillir. accueillir dans le sens de oui, c'est bienvenu même presque. Pour un artiste, c'est bienvenu. Bon, c'est intolérable aussi, moi je peux témoigner par moment, mais je sais que c'est par là où il faut passer. Et donc, on dit que, on pouvait dire dans notre pratique que ces capacités négatives, pour prendre le terme de Keats, ou cette ne pas savoir est le plus intime, on va revenir à ça, c'est notre accès à la vérité. La vérité, la véritable nature des choses, les choses telles qu'elles sont, sans qu'on ait ajouté les concepts, les idées, les formes, les raisons, les sciences, tout ça. Et le Bouddha lui-même, on avait étudié ça dans le groupe d'études, je ne me souviens pas quand, et je ne me souviens pas quel sutra ou texte c'était, mais quand il y avait cette personne qui lui demandait si il, et c'était un de ses disciples, hein, je crois, qui lui posait cette question, existe-t-il ou non un moi éternel? Bon, ça c'est un peu... ou juste, existe-t-il un moi en soi? Est-ce qu'il existe ou non? La question c'était, est-ce qu'il existe ou non? Et le disciple qui a posé cette question disait, si qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce texte qu'on a étudié? Bref, bon, on va juste s'arrêter là, parce que pour ce disciple, c'était, s'il n'avait pas une réponse, il allait partir. Il n'allait plus partir étudier avec le Bouddha. Tu connais cette histoire? Probablement, mais...
Comme ça, oui.
Ouais, mais bon. Et donc, le Bouddha, sa réponse était, je ne peux pas, je ne vais pas répondre à une question comme ça, parce que ce n'est pas pertinente pour la libération. Pour l'éveil. Ces réponses-là, toute saisie d'un concept, quel que soit, est une distraction qui va empêcher de vivre le présent, le moment présent. Et donc, si le Bouddha, c'est comme si on lui demande de donner les oranges, mais il n'y a que des pommes, le Bouddha. C'est-à-dire, ce n'est pas pertinent pour ce chemin de savoir si un moi éternel ou non. On a vu une pièce de théâtre vendredi soir qui était Le Suicidé de Nicolai Erdmann, où il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, mais il y a un type, grosso modo, qui est poussé par tout le monde pour se suicider. C'est un peu compliqué d'expliquer. C'est un vaudeville soviétique, ce type de pièce. Et par moment, il se rend compte, il dit, ah, quand je me suicide, je vais devenir quelqu'un. C'est un peu comme nous, en voulant le diagnostic cancer terminal, ouf, soulagement, parce que maintenant je sais. Je ne suis plus dans l'incertitude. Donc lui, c'était « Ah, je vais devenir quelqu'un si je me suicide. » Ou à un moment où il est complètement libéré parce que plus rien, il risque plus rien. Il peut emmerder tout le monde, il essaie de passer un coup de fil pour insulter le Kremlin, tout ce qu'il veut parce qu'il va mourir, il va se suicider. Mais à un moment, il pose des questions. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'il y a une vie après le mort? Ou qu'est-ce que c'était? Tout comme ça. Hein? C'est un peu comme ce truc éternel. Est-ce qu'il y a une vie éternelle? Un truc comme ça. Et le prêtre, il y a un prêtre qui est là, il dit, pour la religion, oui. Et il y a un marxiste qui est là, et pour le marxiste, non. Et puis, qu'est-ce que c'était quoi? Pour l'homme ordinaire ou quoi?
Oui, l'homme ordinaire, c'est selon. C'est ça ma réponse. Pour l'homme ordinaire, ça dépend.
Pour l'homme ordinaire, ça dépend. Et puis, c'était un peu astuce de pièce de théâtre, il questionne, le personnage questionne le public. Est-ce qu'il y a ou non un billet? Et il y avait personne, et donc il disait oui, et donc il disait non. Et il y a quelqu'un qui finalement, et je pense que c'était probablement quelqu'un du troupe qui était dans la foule, mais parce qu'il devait, il allait mourir à midi. C'était à midi qu'il allait se suicider. Et donc quelqu'un dans la foule dit, tu vas savoir à midi. Donc, c'est exactement c'est ça. Ouais. Donc, vous voyez, ça nous entraîne ce désir de savoir jusqu'à notre lit de mort. Enfin, je pense que sur le lit de mort, beaucoup, beaucoup, la majorité du gens est en sens ça. S'il y a d'autres choses qui se passent. Mais encore une fois, je ne sais pas.
J'allais demander, justement.
C'est ça. Je ne sais pas. Quand je dis je pense que, c'est un peu mon expérience de ce que ça peut être. Mais comme disait Derrida, qui, quand il était en train de mourir d'un cancer terrible du rein, il disait, ça me fait rire tous ces gens qui préparent à la mort. On ne peut pas se préparer à la mort parce qu'on n'est pas mort. Donc, on peut peut-être s'ouvrir à l'inconnu. Mais penser qu'on sait ce qui va se passer quand on meurt, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas là. Alors, pour revenir à ce qu'on a, vous voyez comment ça, cette notion de ne pas savoir, c'est partout dans nos vies. Alors, pourquoi ce maître, il dit, ne pas savoir est la plus intime. Et ça, c'est vraiment une notion clé dans la pratique zen. Il y a un autre koan où le disciple demande au maître qu'est-ce qu'il y a sous le kesa, qu'est-ce qu'il y a sous tes habits. Et le maître dit intimité. Les habits ou les kessas. Le kessa, c'est la robe des maîtres, des moines. Ces robes, c'est juste une idée. Enfin. Et nos habits, c'est une métaphore pour ce qui couvre ce qui est véritablement. Pour cela. C'est cela qui est couvert la plupart du temps. C'est cela qui est insaisissable. À quoi cela sert-il? Donc, il fait référence évidemment au pèlerinage dans le contexte, mais au-delà de ça, ce cela, c'est quoi cela? Cela. Et c'est pas une bêtise de dire que c'est de ça dont il s'agit en pratique. Qu'est-ce que c'est plus intime? Qu'est-ce que c'est l'intime? Intime implique pas de séparation. Et dès qu'on a un concept, une idée, une explication scientifique, il y a un degré de séparation. Que ce soit infime ou énorme. C'est une séparation et ça suffit. On n'est pas intime avec. On pense que parfois, on utilise ce terme dans le langage populaire, etc., pour dire j'ai une connaissance intime de astrophysique, ou je ne sais pas, ou quelque chose. On est en train de dire qu'on connaît très bien ce domaine, ou ce sujet, ou. Mais on parle d'une connaissance. Ce n'est pas ça dont il s'agit quand on dit intime dans cette. Dans notre pratique. On peut connaître tous les champs, on peut connaître toutes les formes, on peut maîtriser parfaitement, sonner les cloches, prosterner, on peut avoir toutes les explications, pourquoi on prosterne, pourquoi l'autel est comme ça, pourquoi on s'assoit comme ceci. Toutes les explications qu'on veut pour, dis, pour faire, on dit dissection ? Non. On dit ça ? Quoi ?
Disséquer.
Disséquer, voilà. Pour disséquer la situation, comme on fait au lycée, dans la cour biologique, on disséquait une grenouille. Je ne sais pas si vous avez fait ça en France, mais oui, grenouille aussi en France, c'est terrible, hein ? C'est terrible maintenant, j'y pense, mais c'est horrible. Quoi ? C'est horrible. Mais pff, on ne connaît pas vraiment la grenouille. Et si on est en train de le disséquer comme ça, des gamins dans un cours de biologie, c'est sûr qu'on ne connaît pas la grenouille, sinon on ne le fera pas. Donc c'est tout ce truc de disséquer, c'est les explications, les concepts, la raison, les faits, quitte s'il avait raison. Enfin, et quitte s'il avait dit ça à l'origine à propos de Shakespeare. Parce qu'il disait que Shakespeare avait la capacité de séjourner dans le mystère et le doute qui nous a donné littérature fabuleuse qui est Shakespeare. Mais tous les grands Molière avaient cette même capacité. C'est pas juste anglo-saxonne. Hein. Et je dis Molière parce que c'est un peu l'équivalent de Shakespeare en France. Et c'est pas facile hein, de ne pas s'accrocher à les concepts et les explications et de vouloir savoir où ça nous mène. Donc c'est déjà ce moine qui pouvait dire il n'a pas dit où est-ce que tu vas, il a dit à quoi cela sert-il ce pèlerinage. Et donc là je crois que le moine était je ne sais pas, probablement il faisait le pèlerinage parce que tout le monde fait un pèlerinage. À l'époque, on faisait ça. On restait quelque temps avec un maître, puis on faisait un pèlerinage vers un autre, et un autre, et un autre, et on ne savait pas très bien à quoi cela servait. Et donc, quand il dit « je ne sais pas », déjà, c'est une étape. Il n'a pas juste, il ne s'est pas replié sur ou accroché à les idées qu'il a de ce qu'on fait, pourquoi on fait un pèlerinage. Parce que certainement, on lui expliquait, ah oui, il y a une tradition de faire des pèlerinages pour honorer d'autres maîtres, ou pour voir du pays, ou je ne sais pas ce que c'était les explications. Mais il avait certainement ça, mais à quoi ça sert? Ah, soudain, il ne sait pas. Et donc, il dit, ah, je ne sais pas. C'est le moment, on peut avoir ces moments, hein, tout le monde. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ici? Bah, je ne sais pas. On peut même dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Quand la première marche, là, le matin, j'essayais, je pense toujours à Thich Nhat Hanh quand je fais le kiné, une marche comme ça. Parce qu'il disait, il s'agit de marcher, de sentir son pied par terre, comme si on embrassait la terre. C'est un peu difficile d'embrasser la terre sur un plancher. Est-ce qu'on peut lâcher cette idée que ce n'est pas la terre et embrasser le plancher? Qu'est-ce que ça veut dire, embrasser le plancher? Qu'est-ce que c'est un plancher? Qu'est-ce que c'est mon pied? Pendant la marche, je me questionnais sur tout ça. Juste à partir de cette phrase de Thich Nhat Hanh, quand on marche, embrasser le plancher. Et puis, il y a une autre version qui fait un peu comme si Thich Nhat Hanh disait les bêtises, mais il ne disait pas les bêtises. Le maître de notre lignage, Maizumi Roshi, quand son premier disciple lui demande pourquoi on fait cette marche, parce que c'était au début de sa pratique, c'est Bernie Glassman, un de mes maîtres, et qui est le maître du maître de. C'est ça. Hein? Mm-hmm. Sochin. Il rencontrait une Sochin comme ça pour la première fois, Bernie, et donc il dit au maître qui dirigeait ça, pourquoi on marche? Et le maître a dit, va demander à mon assistant. Et son assistant, c'était celui qui est devenu Maizumi Roshi, le fondateur de notre lignage en Californie. Et donc Bernie va demander à ce type qui était l'assistant du grand maître. Et il dit, pourquoi on marche? C'est un peu comme, pourquoi on fait un pèlerinage? Et Maizumi Roshi lui dit, quand on marche, on marche. Pour Bernie, c'était waouh. Donc, c'était même pas on marche pour embrasser la terre. C'était we just walk. En anglais, c'était we just walk. On ne marche pas pour aller quelque part. C'est ça la beauté de cette méditation marchant. C'est pratiquement le seul moment de notre vie où on marche pour ne pas arriver quelque part. On marche, c'est tout. On marche. On lâche le concept de ce que c'est marcher, de comment il faut marcher. Évidemment, quelqu'un t'a dit, il faut marcher comme ceci, il faut marcher comme cela, il faut pas marcher comme ça, etc. La première fois que moi j'ai fait ça, j'ai plongé dans un... Je suis arrivée en Normandie où il y avait tous ces gens, les moines, celui de Ganon Pages qui est devenu mon maître. Je suis restée là pour 2 mois dans ce truc tibétain en Normandie. Je suis arrivée pendant un week-end, je ne connaissais rien de rien. J'avais rencontré Ganon Roshi dans son appartement. Elle m'avait montré comment méditer. J'ai médité toute seule, mais je ne savais rien du tout. J'arrive là, sidérée que quand on clappe les petits trucs en bois, tout le monde va se changer et va s'asseoir ensemble. J'adorais. Et on s'assoit et puis il faut se lever et marcher. J'avais entendu parler de ce qu'on appelle le kinin, mais un peu comme Holly quand elle dit « Mais c'est quoi le kinin ?» Je ne savais pas très bien ce que c'était. On m'avait dit « C'est marcher lentement. » Ok. Donc, je commence à marcher lentement. Et dès qu'on pouvait marcher plus vite, un moine, évidemment, me sort du truc, m'appelle et sort de là. Il me dit « Est-ce que tu as déjà fait ça ?» J'ai dit non, j'ai fait un peu chez moi parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait faire ça. Mais non, pas en groupe. Il me dit, il faut marcher un peu plus vite parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde attendait derrière toi. Hein. Je marchais tellement lentement. Je croyais, on m'a dit marcher lentement, donc j'ai marché lentement. on ne sait pas. J'étais vraiment dans le je ne sais pas. Moi, ça me convenait parfaitement. Donc, on te dit comment il faut marcher, et donc on a le défi de lâcher comment il faut marcher, tout en restant présent à le reste. Moi, je n'étais pas présent à tous ces gens qui étaient derrière moi, qui attendaient que la petite nouvelle marche plus vite. on peut mieux observer, on peut mieux être présent à ce qui est autour si on n'est pas fixé sur un concept. Une idée, une règle, marcher lentement. Ok, marcher lentement, j'interprétais ça à ma façon. Et j'observais rien du tout ce qui était autour. Donc, est-ce qu'on peut... Ok, on m'a dit qu'on s'assoit comme ça, on marche comme ça. Je lâche les directives et je peux vraiment faire juste marcher si... je lâche les idées de comment juste marcher. Encore un courant. Ça paraît complètement absurde de dire ça comme ça. Et c'est un vaste programme, vraiment, de juste marcher. Et c'est d'une simplicité limpide en même moment, en même temps. La vie, vivre libre, est une simplicité limpide. Et c'est extrêmement difficile. Alors, ça nous amène à cela. À quoi cela sert-il? Donc, il fait référence au pèlerinage, évidemment. Mais, it, cela, c'est quoi? C'est quoi? On a ces questions de comment, qu'est-ce que c'est? Ou qui suis-je? Ça, c'est des koans, c'est des trucs traditionnels, bien avant le Bouddha, bien en dehors de notre histoire des koans. C'est des koans royales, en fait. Qui suis-je ou qu'est-ce que c'est? On peut passer des journées et des journées à répondre à ces questions avec des concepts, des explications, des idées reçues, les pensées qu'on pense qu'il faut dire, les faits, la logique, la science, tout ça. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Évidemment, pour le monde de science, oui, on peut expliquer le corps, on peut expliquer de quoi on est fait, comment ça fonctionne, on peut envoyer il y a une astronaute française, femme, qui est sur la station spatiale, là dans le ciel. Évidemment, il a fallu la science pour ça. Mais une fois là-haut, pratiquement tous les astronautes sont frappés par le mystère, sont frappés par l'incertitude de ce qui les entoure, et d'où ils sont, et qu'est-ce qu'ils font. Donc la science peut faire des choses merveilleuses et des choses atroces. Les bombes nucléaires, les bombes tout court, les chambres à gaz. Il y a toutes ces possibilités. Mais cela n'est pas ça. Quand on demande qu'est-ce que c'est, ce n'est pas la science qui va répondre à ça. Pour répondre à ça, on doit cultiver cette capacité négative d'accueillir l'incertitude, le mystère et le doute. Dans le zen, on parle de ce qu'on appelle le grand doute. Et on dit que pas de doute, pas d'éveil. Petit doute, petit éveil. Grand doute, grand éveil. Et ce n'est pas une échelle de valeur. Ce n'est pas qu'un est meilleur que l'autre. C'est juste que si on ne peut pas accueillir ce doute, on ne va pas pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. On ne va pas pouvoir se débarrasser de ses habits, des voiles, et juste voir les choses crues, nues. Si on peut faire ça un peu, on va voir un peu. Et c'est pas mal ça, quand même. C'est pas mal de voir un peu. Et peut-être que ne voir pas du tout, pourquoi pas? Je ne sais pas, c'est pas mon cas. Donc, je sais quand c'était mon cas, c'était une souffrance insupportable. Mais quand on voit un peu, on voit un peu. Et c'est pas pire, meilleur, c'est pas une valeur. Si on peut douter de tout, bah, là, on a une possibilité de voir tout. Mais c'est pas tout. C'est tout à cet instant. À un autre instant, c'est l'autre chose. Et donc, il faut cultiver, on a besoin de cultiver ce pas savoir. Parce qu'à chaque instant, c'est différent. C'est un exemple parfait de regarder par la fenêtre pendant des heures. Incertitude absolue à chaque instant. J'attendais pas du tout le soleil aujourd'hui. Est-ce que vous avez attendu le soleil? Peut-être que vous avez regardé le météo. La science nous disait qu'il allait y avoir du soleil. Et parfois, le météo se trompe. Et ça ne colle pas au même moment. Ou c'est relatif. Par exemple, le jour où je sors, j'ai regardé le météo qui me disait pas de pluie avant telle ou telle heure. Ok, super, je n'ai pas pris un parapluie. Je sors et quand même, il y avait une petite pluie, comment on appelle ça? Oui, très énervant. Et Bon, pour l'applique météo sur un téléphone, ça, c'était pas la pluie. Pour moi, pour mes cheveux, pour mes habits, mes chaussures, c'était la pluie. Donc, bon, la science n'a pas toutes les réponses. On aimerait tellement que quelqu'un a des réponses. Et en fait, la réponse, c'est l'incertitude. Donc, cela, c'est insaisissable, cela, qui est insaisissable, mais qui est vraiment là. Qui est vraiment là, à chaque instant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que le pèlerinage nous amène? Si notre pèlerinage est, je ne sais pas, et notre chemin vers cela, enfin, on peut dire, le chemin vers cela, ben, vous êtes déjà, tu es cela. Donc, pourquoi chercher ça ailleurs? Mais on le cherche ailleurs. On le cherche partout ailleurs, mais tu es ça. Et donc, toutes les idées qu'on peut avoir, histoire, oui, j'ai dit un scientifique peut expliquer tout notre corps, un médecin, etc. Un historien peut, un généologue, non, généalogie. Quelqu'un qui étudie la généalogie peut tracer notre histoire et dire comment on est allé là, etc., etc. Et même là, il y a des surprises. Alain a découvert l'autre jour qu'il a un ancêtre qui était le Suleyman Pacha en Turquie. Non, en Égypte. Égypte, oui.
Mais c'est un bourguignon,
C'était.
Joseph.
Oui,
Joseph Sèvres.
qui s'appelait Joseph Sèvres, oui. Mais qui est devenu Suleyman Pacha, et il y a même un statut de lui au Caire.
Il y a incertitude quand même sur la généalogie.
Oui,
C'est pas totalement seul.
oui, c'est pas ça. Donc il y a des incertitudes même dans la généalogie. Mais c'est pas ça qui tu es. C'est pas ça. C'est amusant, c'est drôle, c'est ou c'est catastrophique. Moi, je suis catastrophée d'une certaine façon parce que je sais que j'ai des ancêtres qui probablement ont commis le génocide contre les Indiens et qui peut-être étaient les esclavagistes. Je ne sais pas, mais je porte dans mon passé, mon histoire, des gens qui ont immigré aux États-Unis et pris les terres des autres, et c'est pas beau, hein. Donc, c'est ok, ça c'est dans mon généalogie, bien que je n'ai pas aussi précis que Suleyman Pacha au Caire. Mais c'est pas ça, cela. Je ne suis pas cela, je suis cela. Et si mes ancêtres avaient vu qu'ils étaient cela, ils n'auront pas fait cela, ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est pas possible. Même ça, c'est une bêtise, parce que c'est ça qui était. Et donc, ça ne pouvait pas être moi. Si un cheveu est différent, le monde entier est différent. Donc, c'est maintenant. C'est ça. Et on dit qu'on peut voir, on peut voir, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc avec le karma et l'avenir. Bref, nos actions au passé, évidemment, nous a amenés là où on est. Et nos actions aujourd'hui vont nous amener à le prochain instant. Bien qu'il n'y a pas le prochain instant, il y a juste cet instant. Mais ce qu'on fait à cet instant a des effets tout le temps. Donc, je sais pas, je bois un gorgée d'eau. Il y a les conséquences de ça. Je pose le verre, il y a des conséquences. si je renverse le verre, il y a une autre conséquence. Nos actions, il y a des conséquences. Alors, la question, c'est si on sait ce que c'est cela, véritablement, nos actions vont être différentes que si on ne sait pas. On ne va pas faire mal aux autres. Souvent, ces astronautes qui reviennent, leur vie change. Après avoir eu cet aperçu de cette planète qui est notre maison, qui est complètement isolée dans l'espace. Enfin, ce n'est pas isolé, mais cet vaste espace donne cette impression. L'expérience relative de cette petite planète par rapport au grand espace, ça change. Ça change les gens. Il y en a qui ont des conversions chrétiennes, il y en a qui vont faire d'autres choses, qui vont... je ne me souviens plus, mais il y a des histoires qui sont incroyables de ces astronautes. Je pense à ça parce que j'ai juste vu qu'il y avait cette femme française qui était dans l'espace. Leur concept de ce que c'est la Terre et leur vie est ébranlé à jamais par cette expérience. Et le nôtre aussi, dans notre situation, on a la possibilité d'avoir cette même expérience. Ce n'est pas du tout l'expérience de voir la Terre isolée dans l'espace, etc. Mais cette expérience de véritablement ce qui est ici et maintenant. Et c'est ça notre pratique. C'est pas... Et c'est difficile, c'est pour ça que au début, quand je commençais ce chemin, d'être obligée de parler, mais on ne peut rien dire là-dessus. On ne peut pas le dire. Et c'était la personne qu'on appelle le Bouddha, qui est peut-être juste un mythe. Mais en fait, si c'est un mythe, on l'avait créé avec une vérité derrière. Enfin... lui, après qu'il a eu cette expérience de ce qu'on appelle l'éveil, de les choses telles qu'elles sont, je pourrais utiliser la terminologie dans le zen, lui, il disait, oui, mais c'est pas, je ne peux rien dire. Chacun doit expérimenter ça pour soi-même. Et donc, je ne peux rien dire. Et donc, il n'a pas dit quelque chose pendant, il restait tout seul dans son forêt, là, pendant un certain temps, selon les traditions, selon les histoires, selon les versions. Il restait 40 jours, il restait 9 jours, il restait des années, selon les différentes versions. Et puis, à un moment, il a eu une pensée pour ses camarades avec qui il avait pratiqué pendant, encore une fois, nombreuses années, nombreux jours, pourquoi il y a toutes différentes versions, mais peut-être qu'il a eu cette pensée. Ils se demandaient comment ils allaient. Parce qu'ils avaient une pratique très rude, où ils ne mangeaient pas, ils ne se lavaient pas, ils essayaient de se désengager de tout ce qui est, ils pensaient, la cause de leur souffrance, l'autre corps, le corps, et rester complètement souffrant d'une certaine façon, pensant qu'ils allaient finir en souffrance avec ça. Et donc, il est allé les voir parce qu'il s'inquiétait pour eux. Ou il voulait juste savoir comment ils étaient. Déjà, une pensée de compassion, qui est le fonctionnement naturel de cette sagesse de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il va voir ses camarades qui, dans un premier temps, sont fâchés avec lui. Tu es parti, tu as mangé, ça se voit qu'il a mangé. Tu n'étais pas fidèle à notre pratique. Et puis, il y en avait un qui a remarqué qu'il y avait quelque chose. Il avait un air différent. Il y avait quelque chose sur son visage qui était changé. Celui qu'on appelle le Bouddha. Et donc, il lui demandait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Bouddha raconte. Et ils étaient tellement bouleversés par ce qu'il a raconté, qu'ils ont décidé de le suivre et de faire comme lui, de découvrir ce que lui, il a découvert. Et donc, c'est ça le début de son... C'était ses premiers disciples. Donc, ça, c'est une version. Il y a différentes versions. Je viens de lire un livre qui raconte toutes les histoires imaginables, toutes les traditions, les versions de Bouddha qui n'est même pas vrai, qui c'est mythe, etc. Mais, ça ne change rien à ce que c'est notre pratique. Regardez, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Accueillir l'incertitude, parce que ne pas savoir qui je suis, c'est pas facile. Parce qu'on veut savoir, on veut s'accrocher à quelque chose. Le mystère, toutes les mystiques de tous les temps, ils accueillent grande ouverte le mystère. Que ce soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, hindou, rien du tout. C'est grand mystère. Et le doute, c'est le... je ne sais pas, est-ce que comme c'est comme de se suicider, est-ce qu'il y a une vie après ou non? Est-ce qu'il y a une vie éternelle ou non? On veut savoir. Donc, je crois que je vais arrêter là parce que ça doit être presque temps de manger, non? Je sais.
Il est 10.
Quoi?
1h12.
Ok. Donc, si vous avez. J'aimerais bien savoir si vous avez des questions ou des commentaires ou d'autres choses, oui. Tu vois.
Tu veux cela?
Oui. Toi aussi. Il dit ça parce que mon nom de dharma, c'est tuer cela. Et il le sait. Et donc, c'est un nom de dharma que mon teacher m'avait donné, qui est génial, parce que quand je rencontre quelqu'un et on me dit « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Tuer cela. » Et pas « Je suis cela. » Ça, ça aurait été très dangereux.
C'est intéressant parce que j'allais te demander ton nom. J'allais dire « Amy ». Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'après ce talk, Joël a dit « Tuer cela. » Et moi, en fait, je voulais dire « Amy, quel est ton nom ?» Enfin, je veux dire, c'était marrant qu'on ne rentre pas par la même...
Ah oui,
c'est très différent de rentrer.
Oui, c'est ça.
Moi, j'allais dire, ok, Amy, what's your name? Et toi, tu as dit, tu es ça.
Oui.
C'était marrant d'entrer totalement différemment dans... Oui,
ah oui. Et donc, j'aurais pu répondre à Joël, comme c'était une question, j'aurais pu dire... et toi? Ou je ne sais pas. Mais, oui, c'est intéressant.
Moi, je t'aurais répondu non.
C'est une possibilité qui est un peu plus...
intellectuelle.
Ah, peut-être. Exactement. C'est ça. Bien que pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, ce n'est pas intellectuel du tout, c'est juste encore un énigme. Oui. mais c'est vrai, bien vu, Joël. Oui, c'est ça. Oui, donc d'autres questions ou commentaires? Comment c'est reçu ces trois capacités négatives?
J'avais juste une question. Pourquoi il appelle ça des... En anglais, c'est quoi des...
Negative capability.
Pourquoi c'est négatif?
Parce que ça implique à se retirer. Plutôt que de se... Oui. Plutôt que d'avancer vers...
Oui, je sais, etc. Bien, négatif, positif, oui, c'est pas le retrait.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est... Et de se... oui, d'ouvrir l'espace d'une certaine façon. Mais il y a des artistes dans tous les domaines qui sont au courant de ces... Negative capability, des capacités négatives. Surtout les écrivains et les poètes, mais les poètes beat étaient très... Les beat poètes dans les années 50, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, utilisaient beaucoup ça, c'était leur optique, c'est capacité négative.
Ce qui me vient là en t'écoutant, c'est une question sur le lien avec la confiance, le doute et la confiance. Parce qu'on parle du grand doute, ou du petit doute, ou du doute de tous les jours. Quelle est la place de la confiance? Moi, je me dis, mais peut-être je me trompe, c'est que sans confiance, je ne peux pas continuer. Quelque chose comme ça. Mais bon, peut-être je me trompe. Comment tu vois ça?
Alors, oui, il y a différentes façons de regarder ça. On peut demander quelle est notre définition de confiance? De quoi on parle quand on parle de confiance? C'est important de regarder ça. Un peu plus on doute, plus on a confiance dans le doute, d'une certaine façon. Je sais qu'à un moment, quand moi j'ai passé un grand moment de doute au début de mon chemin d'enseigner, parce que je trouvais que ça ne marchait pas, il n'y avait personne. J'étais en plein doute. Et donc, c'était au point où je ne pouvais même pas, ça me faisait vomir, chanter ces chants. Prosterner, tout ça, c'est dégoûtant, tout ça. Mon maître essayait de trouver des solutions, mais c'était pas ça. Et donc, j'étais dans une grande retraite avec son maître, Genpo, et c'était horrible parce qu'il y avait beaucoup de rituels et tout ça, et dégoûtant. Je voulais pas être là. Je ne voulais pas faire ça, je me sentais obligée d'être là, etc. Et donc, à un moment, je parlais avec lui, avec ce grand maître, que j'étais dans le doute, etc. Il dit, mais non, pas vraiment. Il faut tout douter. Doute ton maître, doute le maître de ton maître, doute ta transmission, doute même que l'herbe est verte. C'est en plein hiver en Pays-Bas, donc il n'y avait pas d'herbe verte, mais bon. Doute qu'il n'y a pas d'herbe, qu'il y a pas d'herbe, ou je ne sais pas, tu vois, doute de tout. Donc, c'était un peu, ça me faisait chier, je trouvais que c'était nul comme conseil, mais vraiment, ça m'a aidé à, quand même à douter. Et puis à un moment, il a eu cette grande idée farfelue de faire une grande cérémonie où tout le monde allait recevoir les préceptes, les 300 personnes, un peu à la tibétain, quand il y a les transmissions. Et pour ça, tous les maîtres présents, dont moi, allaient se mettre dans leur tenue glorieuse, avec les robes magnifiques. On allait tous être devant, et on était 9 à cette époque, mais aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Et toutes participantes allaient passer devant chacun. Pendant les chants et les tambours, ils mettaient les trucs tibétains dedans et tout ça. Et on devait chacun, c'est complètement barré. Oui. Et chaque maître avait normalement, c'est une branche d'un pin. Et un bol de l'eau sacrée. Et on prend le sagesse de nos têtes, on met dans l'eau et puis on met cette sagesse sur les têtes de personnes devant nous. Voilà. Sans me barber. Je dis, non, on est obligé de faire ça. La kessa, les robes et tout ça. J'aurais pu dire non, mais je n'étais pas en capacité de dire non. Donc je l'ai dit, j'ai fait. J'ai accepté de le faire. Et donc on était en l'ordre de seniorité, de hiérarchie. Et donc il y avait moi et après moi, il y avait Franck. On était les deux derniers. Et ni l'un ni l'autre, on n'avait jamais fait cette cérémonie. Tout ça, c'était nouveau pour nous. Pas la cérémonie farfelue de Genpo, mais même le truc de précepte. Donc, on observait un peu les autres, etc. Au fur et à mesure, les gens venaient. Et pour une raison inexplicable, et j'ai déjà raconté ça plein de fois, Mais je crois que c'est parce que j'étais tellement plongée dans cette pratique de doute qu'à un moment, quelqu'un, je ne connais pas, je ne connaissais pas ces gens, il y avait 300 personnes, je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, je ne me souviens même pas si c'était un homme ou une femme. Et peut-être à l'instant, ce n'était pas un homme ou une femme, c'était juste quelqu'un. Je me lève, je regarde les yeux de la personne. La personne me regarde, les yeux dans les yeux, comme on dit. Et je faisais mon truc. Et à cet instant-là, tous les doutes, tout ça est passé. C'était comme si j'étais juste un tuyau. Un tuyau. Un conduit, comme on dit en anglais. On conduit. Non, on ne dit pas ça en français. Oui, on dit ça. Conduit. À travers cela se passait. Et ce n'est pas que l'autre n'était pas cela, mais c'était juste cela. Et j'étais ce véhicule à travers lequel ça passait. Ce véhicule était dans les robes merveilleuses, avec toute cette chair, il y avait tout cet incense, et cette bom, 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 tout ça qui se passait. Mais à cet instant-là, il n'y avait rien de tout ça. Et ça a changé tout pour moi dans cette partie de ma phase, de ma pratique de maître. C'est que je pouvais vraiment pleinement m'asseoir ici parce qu'il n'y avait que cela. Ce n'était pas moi. Et je voyais que c'était Amy qui se mettait à travers de ce tuyau, qui empêchait que cela se passe. Ses idées, ses opinions sur les robes et tout ça, sur le maître, tout ça, le fait qu'il m'avait dit de tout douter, j'ai reçu plusieurs bons enseignements de lui, bien qu'il y ait d'autres choses qui ne vont pas chez lui, mais ça, c'était vraiment précieux. Il m'a fait tellement douter de tout ça qu'il n'y avait plus rien. Amy n'y était plus. Et c'était juste cela. Donc, c'est là où la confiance, j'avais assez de confiance parce que j'avais assez pratiqué de m'asseoir. On pratique, je ne sais pas, chaque fois qu'on s'assoit sur un coussin, on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 30 minutes. On n'a aucune idée. On ne sait pas ce qui va se passer dans la minute qui suit, même si on n'est pas sur un coussin. Mais pendant la méditation comme ça, juste l'avenir, on ne fait rien. On n'intervient pas avec notre corps ni notre mental. Notre mental est en train de causer. Je voyais ce matin quand je comptais. C'était difficile d'arriver à 10 parce qu'il y avait toujours quelque chose qui intervenait. Si j'arrivais à 11, je savais que j'étais vraiment paumée, j'étais ailleurs. Donc, c'est très fort, hein, les choses que notre tête va nous imposer pendant ces moments-là. Mais plus on fait ça, plus on a confiance, mais on n'appelle pas forcément sa confiance. Mais ça ne nous fait pas peur de la même façon. Et donc, plus on accueille ne pas savoir sur le coussin, plus on accueille ce mystère de cet instant, cette incertitude, plus on a confiance. Et en fait, on gagne la confiance dans le doute, dans l'incertitude. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question, à ta question.
C'est juste que, oui, en partie, oui. Mais alors, confiance en quoi?
Dans le doute.
Ça, c'est une possible réponse. Mais toi, c'est à toi de regarder. C'est pour ça que quand je dis, il faut définir ce que c'est la confiance. Donc, c'est confiance en quoi? En qui? Et donc là, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de confiance. Mais ça, c'est pour toi de regarder. Ça, c'est encore pour toi. Quoi? Trust, oui, on peut, oui. Parfois, on dit faith, la foi. Mais ça a une connotation très chrétienne, ça.
Self-confidence.
Comment?
Self-confidence.
Self-confidence, mais ça, c'est une autre version, une autre façon de regarder ça. Une confiance en soi, mais dans quel soi? Qui est soi? Il y a Stephen Batchelor qui a le titre de ce livre « The Faith to Doubt ». On a la confiance de douter. C'est pas, on a la foi en un au-delà, justement. La foi dans un être qui est à l'extérieur de moi, qui va me sauver. Une explication, une définition. C'est pour ça que j'ai dit des bêtises ce que j'ai dit hier soir. Parce que ça donne une idée que oui, c'est ça qui va se passer. Mais ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Pas du tout. Donc pour toi, oui, c'est regarder tout ça. Pour nous tous, hein. Et comme c'était ta question, je dis toi. Ok, donc peut-être on peut terminer là et on va chanter les vieux. Mais après, donc je vais dire ça aujourd'hui parce qu'après on remet tout en place et on va faire une méditation marchant. Et si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous allez à ce moment-là. Parce que si